Avec Brume, revivez la 10e édition du concours international de musique de chambre de Lyon.
Nous sommes à l'Université Lumière de Lyon 2, dans les studios de Radio Brume, installés pour les demi-finales du 10e concours international de musique de chambre de Lyon. Nous sommes en compagnie du médecin Luc Durosoir, de Georgie Durosoir, musicologue et professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, et d'Isabelle Brotodeau, enseignante et chercheuse en musique et musicologie à l'Université Lumière Lyon 2. Tous trois ont accepté d'échanger avec les étudiants du département de musique et musicologie de l'Université Lumière Lyon 2 autour de la sonate Le Lys de Lucien Durosoir, sonate imposée au programme de ses finales. Lucien Durosoir est un compositeur français qui leur tient particulièrement à cœur et pour cause, puisque Luc Durosoir est le fils de Lucien Durosoir, Georgie est sa belle-fille et Isabelle Brotodeau travaille depuis 2005 sur la musique de ce compositeur et étudie en particulier son processus compositionnel. Actuellement, ils œuvrent depuis près de 10 ans à la découverte de sa musique, puisque Lucien Durosoir était avant tout connu pour la brillante carrière de violoniste concertiste qu'il a eue dans les premières années du XXe siècle. Né en 1878 et décédé en 1955, c'est un contemporain de Maurice Ravel, de Francis Poulenc ou encore d'André Caplet. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, ce n'est qu'après 1919, à son retour, qu'il laisse sa carrière d'interprète pour s'adonner entièrement à la composition. La sonate Le Lys, qui date de 1921, fait partie des premières œuvres écrites par Lucien Durosoir. Je laisse maintenant la parole aux étudiants de musique et musicologie de l'Université Lumière Lyon 2 pour échanger autour de cette œuvre avec Isabelle Brotodeau, Georgie et Luc Durosoir.
Bonjour à vous. Alors, première question, nous savons que Lucien Durosoir a une vie très remplie avant la guerre. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Une vie musicalement très remplie, bien entendu, puisqu'il était connu à l'époque comme concertiste international. Il a parcouru toute l'Europe avec son violon. Et sa particularité, si l'on peut dire, c'était de créer à l'étranger les œuvres de musique française qui n'y étaient pas connues, et notamment... En 1903, la sonate de Fauré pour violon et piano, créée à Vienne par lui. Et lorsqu'il venait en France, il faisait connaître des grandes œuvres étrangères non connues. Et c'est ainsi qu'il a créé à la salle Pleyel, je crois, tu me corriges si je me trompe, le concerto de Brahms, qui avait été créé depuis longtemps en Allemagne, mais qui n'était pas du tout connu en France.
En fait, Lucien Durosoir était ce qu'on pourrait dire un rebelle, un petit peu. Il avait perdu son père assez tôt, puisqu'il avait 12 ans quand son père est mort. Donc. Il a été élevé par sa mère, donc en fils unique élevé par sa mère. Donc adolescent, certainement turbulent, entré au conservatoire, au bout de quelques mois, il se fait exclure pour insolence envers le directeur de l'époque, qui était Ambroise Thomas. Il va continuer ses études de violon avec son professeur du conservatoire, Henri Berthelier. Puis, très vite, il va intégrer comme premier violon les concerts colonnes, mais soucieux de faire une carrière plus de violoniste soliste, et ayant en quelque sorte brûlé ses cartouches en France, il décide de partir en Allemagne. Et il valait donc, à cette époque, c'était assez rare de s'expatrier. Et donc, surtout en Allemagne, lorsqu'on est français, autour des années 1900. Et donc, il va partir en Allemagne et il va continuer ses études donc, en Allemagne avec un grand violoniste allemand qui était Hugo Hermann, lui-même élève de Joseph Joachim. Joachim qui était le dédicataire du concerto de Brahms donc. Il a travaillé également avec Joseph Joachim. Et c'est comme ça qu'il va être un familier à la fois des villes allemandes et de la musique allemande. Et ça lui donnera l'occasion, effectivement, lorsqu'il reviendra en France, de donner en première audition par un violoniste français le concerto de Brahms en 1903 à la salle des agriculteurs. Ce n'était pas la salle Pleyel à l'époque, c'était la salle des agriculteurs, qui était une grande salle connue du monde parisien de l'époque. La salle Pleyel n'était pas la salle Pleyel actuelle, c'était une salle qui était rue Rochechouart et qui était, disons, une salle un peu plus secondaire à l'époque. Voilà donc un peu un compositeur, un peu d'abord un musicien un peu rebelle, et sa carrière va se poursuivre donc dans toutes ces années de 1900 en fait à 1914, puisque son dernier récital, il l'a donné au mois d'avril 1914 à Paris, une série de 3 récitals, et par la suite naturellement après avril 1914, on arrive très vite au mois d'août 1914, au 2 août, et à la mobilisation générale.
Bien sûr, dans la vie de Lucien Durosoir, il y a eu la guerre. On suppose que ça a ébranlé sa vie et son travail. Est-ce que vous pourriez nous parler des répercussions que ça a eues justement sur sa composition qui suivra après là ?
La guerre semble présente dans toute son œuvre. Même, on peut dire, la deuxième guerre, comme s'il y avait dans le troisième quatuor de Lucien Durosoir, écrit en 1933-1934, les musiciens du quatuor d'Yotima qui en ont fait le premier enregistrement nous ont dit il y a déjà une ambiance de terreur de la guerre, une ambiance prémonitoire de la guerre dans ce troisième quatuor. Quand je dis que la guerre est présente, je veux dire par là que d'après ce qu'on sait de Lucien Durosoir, moi j'ai lu toute sa correspondance et j'en ai beaucoup discuté avec mon mari qui est donc son fils, on sait que c'était un personnage qui avait une grande foi dans la vie, qui avait une énergie vitale extraordinaire et une confiance en son étoile qui lui a bien servi pendant la guerre. Mais en même temps, il n'avait aucune illusion sur l'humanité, aucune illusion sur l'histoire de l'humain, sur les possibles cataclysme humain que sont les guerres, et il en a connu deux, 14-18, 39-45. Donc la guerre est présente en même temps et côtoyant dans ses œuvres cette énergie vitale dont je parlais. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons beaucoup salué l'interprétation du duo Tichenko-Carr, oui, parce qu'il y avait les deux choses dans cette interprétation. Il y avait une lecture passionnée et rageuse de la vie, en même temps qu'une espèce d'éblouissement. Et on peut dire que Lucien Durosoir se situe entre ces deux extrêmes, mais que la guerre est présente par beaucoup de tourments, par beaucoup des passages extrêmement sombres et extrêmement tourmentés dans sa musique.
Je crois que, d'ailleurs, lui-même a écrit et a dit qu'il avait en réalité connu 3 guerres. Parce que né en 1878... il avait connu par ses parents, et c'est donc c'est très proche, la guerre de 70, de 1870. Donc la guerre franco-allemande, franco-prussienne, disons, de 1870. Il va connaître effectivement et participer à la seconde, à la Première Guerre mondiale, et qui est pour lui sa seconde guerre, en quelque sorte, et ensuite connaître certainement beaucoup de difficultés et même participer dans une certaine mesure à la Deuxième Guerre mondiale, qui va être sa troisième guerre. Donc c'est vrai que sa vie a été marquée par 3 étapes majeures dans la vie d'un homme, ce qu'on ne souhaite à peu de gens. Et d'autre part, ses écrits, sa culture ont été très imprégnés de ces conflits et de cette marque de l'histoire.
Est-ce que vous pensez que les compositions qu'il a créées sont une sorte d'exutoire aux choses qu'il a vues pendant la guerre ?
Sans doute, oui. On ne peut pas dire pourtant que son œuvre soit descriptive. Il n'y a pas Si peut-être, il y a le poème symphonique Funérailles, qui est dédié à la mémoire des morts de 14, mais qui est la seule œuvre avérée par la tradition orale. Il avait dit à son fils, c'est une œuvre à la mémoire des morts de la guerre. Mais on ne peut pas dire, par exemple, qu'il y ait dans sa musique des scènes de la guerre. Si je réponds, est-ce que je réponds bien à votre question ? Il n'y a pas de notion précise de description, de situation de combat. C'est plutôt une ambiance que l'on pourrait dire affective, un ressenti général, un ressenti humain et partagé par les autres, mais pas telle bataille, pas telle effrayeur, pas de choses comme ça précises.
Il est très difficile de répondre à cette question. En réalité, il a peu écrit pour donner ses sentiments. Et personnellement, j'étais beaucoup trop jeune pour l'interroger, puisque il est mort. Moi, j'avais pas 18 ans. Dès l'âge de 11 ans, j'étais pensionnaire dans un lycée, car j'étais né dans un petit village où il n'y avait pas de possibilité de faire des études secondaires. Donc, en réalité, je l'ai assez peu connu de son vivant. En réalité, je l'ai connu à travers sa correspondance de guerre, car de 1914 à sa démobilisation en 1919, il a écrit plus de 1500 lettres à sa mère. Et cette correspondance, j'ai eu le bonheur de la connaître et de la publier. Donc, c'est près de 800 pages de textes qui sont un peu ses sentiments de tous les jours, sa vie au quotidien et ce qu'il pense, et d'un dialogue permanent donc qu'il va établir avec sa mère pendant plus de 55 mois. Et à partir de là, on comprend, je dirais, ce qu'est l'homme, et j'ai découvert à ce moment-là un homme que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'ai découvert un homme, et lorsque, plus tard, nous nous sommes intéressés à la musique qu'il avait laissée, puisqu'en réalité, il avait écrit comme une sorte d'exutoire à cette brisure de carrière, à cette carrière brisée, une carrière de violoniste qui est brisée par la guerre et qui va transformer l'individu d'un violoniste en un compositeur. Et on a quelquefois l'impression que son œuvre écrite a été comme une sorte d'exutoire à ce qu'il avait vécu pendant ces 4 années de guerre. Et donc, lorsqu'on essaie de faire une adéquation entre ce qu'étaient ses données, je dirais littéraires, ses écrits à sa mère, et lorsqu'on écoute ensuite son œuvre musicale, on a effectivement l'impression que cette écriture a peut-être été une façon de se libérer, sans que ce soit pour cela, je dirais, une musique descriptive. Mais c'est plus une façon de libérer son âme et son cœur, plutôt que de décrire une situation vécue.
Donc, plus par rapport à l'œuvre, est-ce que la sonate d'Ulysse, c'est sa première œuvre qu'il a écrite ?
Il y a plusieurs premières œuvres, parce que dans l'année, il est rentré chez lui en février 1919. Il habitait à l'époque Vincennes. Il semble qu'il se soit mis au travail tout de suite, parce qu'il avait mûrement réfléchi pendant la guerre à composer. Il y a longtemps qu'il voulait composer. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mais il avait déjà appris la composition. Et il avait même demandé à sa mère de lui envoyer ses exercices de contrepoint. On vous racontera tout à l'heure pourquoi il a pu réfléchir à la musique alors qu'il était en guerre. Et lorsqu'il est revenu, il a entrepris de donner ce qu'il avait appelé lui-même ses fruits mûrs. Il avait écrit à sa mère... « Lorsque je reviendrai, si je reviens, je composerai, c'est certain, et je donnerai des fruits mûrs. » Ça veut dire qu'il avait beaucoup réfléchi à des œuvres possibles, et quand on constate qu'en 1921, il y a déjà le poème pour piano, violon, alto et orchestre, qu'il y a déjà la sonate le Liszt, qu'il y a déjà un quatuor, et s'il te plaît, il y a autre... les aquarelles, évidemment, auparavant, la toute première... Donc, la sonate se situe dans le deuxième lot d'œuvres. Mais tout cela tient dans une enveloppe de 18 mois à peine.
C'est pour ça que le mot d'exutoire que j'ai utilisé tout à l'heure est presque à la fois psychologique mais il est presque également, je dirais, matériel, puisque dès sa libération, dès 1919, il va coucher sur le papier et des œuvres non négligeables, c'est-à-dire son cycle des cinq aquarelles, son caprice pour violoncelle et harpe, un premier quatuor à cordes, la sonate et le poème alto violon et piano, et avec une version pour orchestre également.
Et pourquoi la sonate s'appelle le Lys ?
Ah,
je crois que c'est un mystère. Et là, je vais me tourner plutôt vers Isabelle, qui a essayé de décortiquer le savoir pourquoi le Lys. Alors, je ne sais pas.
Alors, il y avait des hypothèses sur le Lys, peut-être symbole virginal, ou bon, pas symbole de la royauté. Il était tellement rebelle, je pense que c'est une très mauvaise piste, vite abandonnée. Il y avait l'hypothèse aussi d'un cours d'eau.
Oui, d'une rivière. Oui.
D'une rivière. Je crois que d'ailleurs, il y a un de vous, parmi vous, voilà, c'était Karim, je crois. Tu avais trouvé quelque chose. Est-ce que éventuellement, tu voudrais en dire deux mots?
Et d'ailleurs, à l'image de ce que vous avez tout à l'heure évoqué, donc cette idée de long fleuve tranquille, quelque part, qui serait le fruit de son travail qui mûrit, un peu comme un fleuve qui s'élargit, et qui serait à mettre en rapport aussi avec la pièce qui est composée en deux parties, avec une introduction très longue, oui. Et finalement le développement de cette introduction dans une deuxième partie, comme, les fruits qui mûrissent, comme l'image que vous avez utilisée.
Et un autre point, ce que tu as remarqué, c'est que ce fleuve est à part égale, coule à part égale entre la France et l'Allemagne.
Oui, c'est donc le Lys. Et d'ailleurs, dans une de ses lettres, il va franchir le Lys à un moment donné. Donc les troupes, dans la dernière partie de la guerre, dans la dernière partie de la guerre en 1918, puisque le 11 novembre, quand l'armistice va sonner, ils ont déjà franchi les frontières et ils se trouvent en Belgique. Et il a franchi le Lys quelque temps auparavant. Et ça, c'est dans une lettre. Alors, est-ce que ce Lys est celui de la... Parce que en fait, il l'écrit, il y a deux orthographes. En fonction dans les documents et dans les manuscrits, on le voit écrit avec un Y et d'autres fois on le voit écrit avec un I, et on ne sait vraiment pas, Isabelle, je ne sais pas si vous avez conclu, mais on ne sait pas vraiment s'il faut le publier avec un Y ou avec un I. Alors la rivière, je crois que c'est avec un I.
Oui.
Et la fleur, naturellement.
Voilà, c'est vrai qu'il y a encore des interrogations. Peut-être que l'intérêt dans l'interrogation qui subsiste, je ne sais. Une autre question par rapport au titre, et c'est que c'est le second mouvement qui porte le titre, le Lys, en même temps que la dédicace à Jean-Marie Leclerc. Voilà.
Cette sonate est dédiée à Jean-Marie Leclerc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin, si vous le savez, pourquoi ?
Oui, parce que Lucien Durosoir était un découvreur de musique de son temps, mais aussi du passé, et que même s'il y a autant de Debussy, autant de Charles Borde, autant de Saint-Saëns, qui sont ses contemporains, il y a un mouvement vers le passé. Il touche très peu la musique instrumentale. On s'intéresse beaucoup à cette époque-là aux musiques vocales de la Renaissance et notamment aux musiques religieuses de la Renaissance, à la polyphonie vocale. Très peu d'artistes se sont intéressés aux musiques instrumentales et notamment au violon français. De sorte que Jean-Marie Leclerc était un compositeur sans doute très peu connu. D'ailleurs, j'ai retrouvé très récemment une lettre de la mère de Lucien qui répond à son fils pendant la guerre, où elle lui dit « Oui, en effet, tu as raison de jouer du Leclerc, parce que Leclerc est un compositeur admirable, mais que les professeurs du conservatoire n'enseignent pas à leurs élèves, peut-être tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. » Et je pense que dans cette phrase un peu assassine, elle décrit une situation réelle. Il y a tout un pan de la musique française, vous êtes bien placé pour savoir à quel point la musique française dans l'histoire de la musique européenne a du mal à se faire sa place. Entre Rameau et Debussy, on a du mal à caser d'autres très, très grands artistes, y compris Berlioz et beaucoup d'autres. Eh bien, déjà, au début de du siècle dernier, donc, au temps de Lucien Durosoir et de sa mère, Jean-Marie Leclerc était presque, non pas un inconnu, mais un personnage tout à fait obscur de l'histoire de la musique française.
D'ailleurs, dans ses lettres à sa mère, il va dire, quand il va jouer du Leclerc, parce qu'il joue du Leclerc, au front, dans certaines circonstances, et ses camarades de groupe, puisqu'il est, il aura l'occasion de fonder un petit groupe, de regrouper autour de lui un petit groupe de musiciens, dont certains comme André Caplet ou le violoncelliste Maurice Maréchal, ou d'autres comme Gustave Cloès, qui fut plus tard un directeur, un chef d'orchestre à l'Opéra Comique. Il dit à sa mère, c'est curieux, mais Caplet, Maréchal, ils ne connaissent pas Leclerc. Et quand ils découvrent ce musicien, c'est pour eux, c'est un inconnu. Et ils sont surpris de voir du Rozoir jouer du Leclerc.
L'intérêt pour Jean-Marie Leclerc se manifeste également à travers des ouvrages de Leclerc que j'ai pu voir chez vous. Peut-être pouvez-vous en parler un petit peu.
Oui, peut-être que tu peux.
Oui, effectivement, mon père, qui était un peu à l'époque aussi, je dirais, cher, pas collectionneur, mais il aimait les éditions originales. Il a cherché toute sa vie d'artiste, enfin de violoniste, à avoir les œuvres, les originaux de Jean-Marie Leclerc. Et sur les 4 volumes des originaux de Jean-Marie Leclerc, il a fini en trouver 3. Et nous possédons toujours les 3 œuvres
gravées
par la veuve. C'était Madame Leclerc qui gravait les ouvrages de son mari. Et donc nous possédons les 3.
Gravés au début du 18e.
Nous avons les 3 ouvrages originaux sur les 4 volumes de l'œuvre de Jean-Marie Leclerc.
Alors, pour revenir à ta question sur la dédicace à Jean-Marie Leclerc, c'est vrai qu'elle intervient au début du second mouvement. Alors, je vous interroge également, Georges et Luc, mais je pense qu'il y a un esprit musique française, plus peut-être qui se fait un peu plus dur dans ce début de ce second mouvement, peut-être, à travers une ornementation.
Avec le rythme pointé ou doublement
pointé. Rythme pointé à la française.
Plutôt une allusion, un esprit, mais on ne peut pas dire que ça soit, ça va pas beaucoup plus loin que ça, que l'allusion, l'hommage, mais ça n'est pas une œuvre stylisée à la manière de,
non.
Et savez-vous pourquoi l'œuvre est précédée d'une didascalie de Le Comte de Lille?
Parce que du Rozoir était un grand lecteur de poésie. Il, à propos d'éditions originales, on parlait de Leclerc, mais il a aussi des éditions originales de Verlaine. Il avait toute l'œuvre de Le Comte de Lille et de tous les Parnassiens. Vous connaissez cette école de poésie. Il s'intéressait et se passionnait aussi pour les traductions que Le Comte de Lille avait faites du théâtre grec, Eschyle, Euripide. Moi, c'est dans la bibliothèque de mon beau-père que j'ai lu toutes ces traductions du théâtre antique. Et c'était un passionné de poésie. Or, on remarque très souvent dans son œuvre, il y a une didascalie ou même une strophe entière quelquefois qui introduit l'œuvre sans qu'on sache nécessairement quel est le lien entre la poésie et l'œuvre. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le comprendre. Et il y a même des cas où la poésie dit le contraire de l'œuvre, mais ça, moi, j'ai une théorie sur la question, mais on ne peut pas en parler ici, ce serait trop long. C'est à propos de Jouvence, mais il y a ces poésies qu'il met en exergue de sa musique ont un sens pour lui, qu'il ne nous est pas forcément aisé de décrypter, mais elles ont un sens. Et en tout cas, elles disent son lien très fort avec les poètes de son temps.
Et la majorité de ses œuvres sont précédées ou en tout cas liées à un argument littéraire. Alors, je pense aussi à Aube. Par exemple, la sonate pour piano qui tire son inspiration, en tout cas son énergie, du poème de Rimbaud. Voilà, mais c'est une parmi d'autres.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la structure de la pièce?
La structure de la sonate? Oh, j'ai bien envie de passer la parole à Isabelle, une experte en la matière.
Voilà, alors, je suis allée faire quelques séjours à Bélus. Donc, Bélus, c'est la maison familiale qu'avait acquise Lucien.
Lucien en 25.
Voilà, en 1925-1926, donc on pourra peut-être revenir sur les circonstances. Voilà, oserais-je dire au fin fond des Landes?
Oui.
Oui, voilà. On a l'envie d'y aller, quoi. On ne peut pas y arriver par hasard. Voilà. Et donc, dans cette maison, vous avez retrouvé, en fait, dans le grenier, tout un tas de partitions et Alors, peut-être avant de revenir à ça, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est si vous pouviez nous dire comment vous avez retrouvé ces partitions avant d'entreprendre, donc de les exhumer au sens propre et figuré.
En fait, à la mort de mon père en 1955, disons que les partitions, les cartons à musique, voilà, ce sont des cartons à musique, les cartons à musique classiques contenaient, je dirais, la totalité de son œuvre manuscrite, ainsi que d'ailleurs d'autres cartons à musique contenaient naturellement sa bibliothèque musicale de toute sa carrière et tout le panorama musical qu'il avait estimé devoir acquérir pour étudier, je dirais, les grands maîtres de la musique. Donc, après 1955, après sa mort, ma mère et puis nous-mêmes, etc., nous avons un peu, je dirais, fait un peu de place et placé tous ces cartons à musique dans une pièce, disons, isolée. Le grenier peut être un peu péjoratif, disons, mais une pièce qui n'était plus la pièce de tous les jours. Donc, chacun de nous a vécu. Moi, j'ai fait mes propres études, ma propre carrière. Et ce n'est que à la fin des années 1998-97, à peu près, que sentant venir l'âge de la retraite, et je me suis dit, il y a là un certain nombre d'archives familiales, et en particulier ces fameuses lettres de guerre, cette correspondance de guerre, puisque nous avions gardé dans la famille la totalité des lettres de guerre de mon père, ainsi que la totalité, ce qui est très important et très rare, la totalité des lettres de sa mère, c'est-à-dire une correspondance croisée complète, ce qui est qui est rarissime, puisque je crois qu'actuellement on en connaît 7 ou 8 exemplaires au monde, de correspondance croisée entre un individu qui est au front et un individu de l'arrière et qui est total. Donc je me suis dit à ce moment-là, du fait de circonstances diverses, de hasards liés à mon épouse et à diverses rencontres que j'ai faites à ce moment-là, je me suis dit c'est intéressant de lire cette correspondance. Et comme on parlait beaucoup à l'époque déjà des anniversaires de Verdun, on était au 90e anniversaire de Verdun, on proposait déjà, on pensait aux anniversaires du centenaire de la guerre de 14, je me suis dit c'est intéressant de voir cette correspondance, et j'ai donc découvert et publié cette correspondance. Je me suis mis au travail, j'ai travaillé pendant 2 ans à la publication de cette correspondance. Et c'est à partir de là que j'ai découvert, comme je vous le disais il y a un instant, la personnalité d'un homme que je ne connaissais vraiment, que je ne connaissais pas en réalité.
Il faut revenir au lycée.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais la musique qui est là, les cartons à musique, c'est peut-être le moment de les ouvrir également. Et puis, un certain nombre de hasards qui avaient fait que un certain nombre d'étudiants de Jongirent avaient demandé à regarder cette musique, etc., etc. Nous avons en fait ouvert ces cartons et découvert une musique qui nous a paru particulièrement intéressante et originale. Voilà, c'est un peu l'histoire de ces cartons.
Alors, dans ces cartons, il y a les partitions qui sont achevées, qui sont toutes manuscrites, hein, à l'origine. Donc et il y a également des brouillons sur lesquels Georgie a travaillé fort assidûment et de manière très efficace. Voilà. Donc, c'est surtout la consultation des brouillons qui m'ont permis, en tout cas, par exemple, pour le Lys, pour cette première œuvre, de comprendre un petit peu des rouages, alors sans pouvoir tout circonscrire, hein, de la partition, mais en tout cas de comprendre certains mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que Lucien Durosoir est quelqu'un, en tout cas moi ce que je peux voir d'un point de vue musical, hein, c'est quelqu'un de très organisé, de très méticuleux, quelqu'un qui, alors ça c'est peut-être un effet générationnel, quelqu'un qui ne jette rien. Donc on a tous les brouillons. Sur certains de ces brouillons, il y a même encore des traces de contrepoints anciens, puisque quand il y a un exercice de contrepoint qui est fait sur un recto, au verso, on peut trouver un brouillon. Voilà. Et donc on trouve, j'ai trouvé tout un tas d'éléments, et notamment donc de renouer le fil aussi. Le fait qu'il ait fait du contrepoint, on n'en a pas encore parlé, mais il a beaucoup travaillé avant la guerre le contrepoint avec Eugène Kolz, qui était l'assistant d'André Gédalge au Conservatoire de Paris. Il a également travaillé l'harmonie, mais en tout cas, il a travaillé assidûment le contrepoint dans ses différents exercices que peuvent être le fleuri, le grand mélange, le renversable. Également, alors je le mentionne parce que dans les partitions, dans les brouillons, ça donne des éléments de compréhension. Il a également travaillé les fugues et son professeur lui demandait de rajouter une ligne supplémentaire en clé de fa sous les fugues qu'il réécrivait donc à la main. Et en regardant la relation entre la fugue écrite et cette ligne de basse qui était précédée d'un grand F majuscule à l'ancienne, j'ai compris qu'en fait les notes qu'il y inscrivait correspondaient aux notes fondamentales, F comme fondamentale, donc les fondamentales harmoniques du parcours. Ça dessinait le parcours harmonique de la fugue. Ça, c'est intéressant parce que dans ces brouillons, en fait, on trouve plusieurs étapes. On trouve des fragments mélodiques, parfois très très brefs, de 2, 3, 4 mesures. Parfois, la mesure n'est pas indiquée. Souvent, ce qui est déterminant chez lui, c'est l'empreinte mélodique. Le rythme ne lui est pas attribué. Il semble secondaire. Et ça, je pense que ça se voit beaucoup dans le Lys. Parce que donc il y a une figure, une empreinte thématique originelle qui va donner lieu à différentes déclinaisons, notamment rythmiques et métriques. Elles s'inscrivent dans différents types de mesures. Voilà, donc on trouve des éléments comme ça qu'il va dans un premier temps numéroter A, A1, A2, A3. Donc c'est première partie, deuxième partie, troisième partie du thème. Enfin, je vais faire bref. Un élément B, etc., qu'il va décliner. Il peut décliner jusqu'à un élément E. Et parfois, on voit aussi en fin de ligne des éléments comme R, M, C, 16. Donc ça peut paraître un petit peu bizarroïde. Mais quand on a travaillé un peu le contrepoint, on peut comprendre. Parce qu'en fait, R, ça veut dire mouvement rétrograde. Et en fait, effectivement, on s'aperçoit que c'est le même thème, mais décliné de la dernière note vers la première note. Mouvement contraire, mouvement rétrograde, rétrograde, de, voilà, etc. Donc, il applique finalement dans son matériau thématique, l'élaboration de son matériau thématique, tout un tas de recettes, entre guillemets, qu'il a pratiquées dans le contrepoint. Voilà, ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, il construit cette fois-ci des continuités un petit peu plus grandes sur deux portées. Il n'inscrit jamais la clé, les clés en début de portée, mais on suppose et on voit après la concordance de la partition que c'est clé de sol pour ce qui est la partie supérieure et la partie inférieure, donc dans un premier temps, est vide. En fait, il s'attache d'abord à créer une continuité, une continuité mélodique. Donc l'élément mélodique est premier dans sa construction. Ensuite, une fois qu'il a fixé cette construction mélodique, on voit apparaître d'autres continuités sans rature, cette fois-ci vraiment fixées définitivement dans un cadre métrique et rythmique, sous lesquelles donc, une deuxième portée va faire apparaître des notes, donc qu'on présume être en clé de fa, et qui, donc après partition reprise, correspond effectivement à cette fameuse fondamentale. Donc en fait, il reprend une méthode de travail qu'il a simplement apprise avec Eugène Kolz. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et alors, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'entre cette dernière étape et la partition finale, il n'y a plus d'écart. C'est-à-dire qu'ensuite, il va écrire ce qu'il appelle un manuscrit définitif, qu'il écrit au crayon à papier. On retrouve la continuité mélodique. Donc là, en l'occurrence, quand c'est pour la sonate Le Lys, cette continuité mélodique va être répartie entre le piano et le violon. Mais rien n'indique dans son brouillon, dans son premier brouillon, rien n'indique à qui sera destinée et quelle partie mélodique. En fait, il le décide au moment où il fait sa partition. Il doit déjà le savoir, lui, mais en tout cas, la répartition se fait à ce moment-là. J'ai observé la même chose dans le trio en si mineur pour violon, piano et violoncelle, et dans d'autres œuvres. Donc, cette destination, il doit déjà l'avoir dans sa tête. Et alors, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'à partir de là, il écrit toute la partition, c'est-à-dire l'accompagnement, et qui n'est pas généralement un accompagnement harmonique de style, j'ai la mélodie et je mets des accords avec un rythme d'accompagnement. Non, pas du tout. C'est une écriture très contrapuntique, c'est-à-dire que souvent, les parties d'accompagnement sont des mélodies, sont des lignes mélodiques. Voilà, et ça, c'est assez fabuleux. Donc, ça, c'est l'étape d'après. Crayon-papier, avec l'accompagnement, donc toute la partition est là en entier, il n'y a pas de rature ou très très peu. Et ensuite, il passe au crayon, au stylo, à l'encre. Hein, voilà, c'est ça. Ensuite, il repasse à l'encre sur le crayon papier. Donc, on voit les deux matières qui se superposent. Et éventuellement, ensuite, il écrit un jet final qui ne sera qu'à l'encre. Voilà. Et le tout, souvent, se voit relié. Mais ça, je crois que c'est un travail de Madame Louise Durosoir, la maman. Oui, hein, qui avait à cœur de valoriser et de bien conserver l'œuvre de son fils. Voilà donc pour la méthode de travail, qui ne nous dit pas comment c'est structuré. Mais par rapport à ça, en tout cas, pour répondre peut-être plus précisément à cette question-là, en regardant donc les brouillons, comment il l'élabore, donc j'ai un peu joué à Sherlock Holmes, parce que c'est un petit peu ça, parce que c'est vrai que quand on écoute l'œuvre, les rouages structurels ne sont pas très évidents à détecter. Et donc, il s'avère que dans la sonate Le Lys, vous avez un premier élément mélodique de 9 notes qui, en fait, va servir de matrice. En fait, j'ai appelé ça un élément matriciel, puisque c'est à partir de lui que vont découler tous les autres éléments mélodiques de la pièce, qui seront donc traités en rétrogradation, en miroir de la rétrogradation, diminution, augmentation, voilà, ouais. Diminution, augmentation. En fait, tout un tas de techniques contrapuntiques qui doivent plus à la musique allemande qu'à la musique française dans l'esprit.
Il passait beaucoup de temps à recopier Jean-Sébastien Bach.
Oui, pendant la guerre.
L'art de la fugue, mais même avant.
Oui.
Il commence une fugue l'été, à quelques jours avant la mobilisation d'août 14. Il commence la copie d'une fugue de Bach, de l'art de la fugue. Puis il s'en va à la guerre et il la termine en 1919, en août 1919, en avril 1919.
Voilà. Luc a apporté, les auditeurs ne le verront pas. Mais des manuscrits, justement.
Je reviens sur ce qu'a dit Isabelle à propos du continu mélodique. Quand on écoute la sonate Le Lys, c'est absolument frappant de voir qu'il y a une mélodie qui se propage du violon à la main droite, à la main gauche du piano. On est constamment dans la mélodie, mais elle n'est jamais au même endroit. Et elle est absolument partagée entre les trois timbres, si l'on peut dire, main gauche, main droite et violon. Et c'est ce continuum que lui avait certainement dans sa tête au moment où il faisait ses brouillons, et qui émerge dans la dernière copie, en quelque sorte. Et c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas de rature. C'est qu'il avait certainement une idée très claire de ce qu'il voulait faire au moment où il commençait à travailler. Une maturation intérieure.
Voilà, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que... Alors, ce sont les petits détails matériels, mais des détails qui en disent long, c'est qu'à Bélus, il n'y avait pas d'électricité en 1936, donc pas possibilité d'écouter d'œuvres de contemporains. Donc, il s'est forgé vraiment son langage,
oui.
hors des courants de l'époque, notamment le néoclassicisme qui, en 1921, faisait les beaux jours de Paris. Mm-hmm. Il n'avait pas de piano non plus. Donc, il écrivait, c'était tout dans sa tête.
Table.
Et c'était tout, voilà, le travail à la table. Donc, pour comparaison, Ravel, Stravinsky écrivait au piano. Beaucoup de compositeurs de l'époque écrivaient au piano. Pour lui, non, c'est vraiment quelque chose qu'il conçoit, qu'il entend dans sa tête. Et vous m'aviez dit, Luc, je vous avais interrogé là-dessus, il ne se servait pas non plus de son violon.
Non.
Pour composer.
Non.
Voilà.
Une question plus générale, plus sur son œuvre en général. Est-ce qu'elle a été jouée de son vivant, son œuvre, ses œuvres ? Est-ce qu'elles ont été jouées ?
Son œuvre a été un peu jouée de son vivant, et ceci est lié à l'histoire du compositeur anglais André Caplet, qui était son compagnon de guerre. André Caplet était déjà très célèbre à l'époque. Il avait été chef d'orchestre à Boston. Il était revenu, il y avait fait la guerre lui aussi. Il était pris de Rome. Je vous rappelle que c'est lui qui est passé devant Ravel en 1901. Il a eu le prix de Rome devant Ravel. Et André Caplet avait été très introduit à la société de musique indépendante, qui était la concurrente de la Société nationale de musique. Et à la Société de musique indépendante, il voulait promouvoir des œuvres de jeunes compositeurs. On laissait les vieux à la Société nationale de musique. Mais donc, Lucien Durosoir a été joué, son quintet, son deuxième quatuor, sa sonate pour violon et piano, Le Lys, a été jouée. soit en audition privée par lui-même et des amis pianistes, soit à la SMI. Mais quand Caplet est mort prématurément, ils avaient exactement le même âge, hein, tous les deux, en 1925, c'est là que Durosoir, semble-t-il, s'est dit qu'il avait perdu, comme il ne voulait absolument pas faire de concessions au monde de la mondanité où il fallait voir un tel pour être joué, voir tel chef d'orchestre, etc. Il ne voulait pas jouer de ce jeu-là. C'est là qu'il a décidé de s'installer à la campagne, de vivre tout seul dans son coin. Il était resté en région parisienne tant que Caplet était là pour l'aider à faire connaître son œuvre.
Mais là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire que Lucien est resté très en contact avec ceux qui avaient été sur le front avec lui et qui avaient vraiment un décalage entre, on va dire, les musiciens de l'arrière et les musiciens du front aussi. Que, là aussi, ça avait créé une coupure, une sévère coupure.
Oui, c'est-à-dire que finalement, la permanence de ses amitiés allait à ceux qui avaient fait la guerre avec lui et il ne voulait rien savoir du monde parisien de l'après-guerre. Je pense qu'il avait une grande colère contre ceux qui s'étaient débrouillés pour ne pas faire la guerre. Vous connaissez ce genre d'histoire. On occupe les places de ceux qui sont partis au risque de leur vie et ce n'est jamais très joli. En tout cas, ce n'est pas sympathique. Et quand on revient, il n'y a plus de place pour les autres. Donc, il n'aimait pas cette société-là et il n'avait jamais eu une nature à courber les chines devant la mode ou devant les gens importants. Donc, finalement, il s'est isolé volontairement pour ne pas partager une vie mondaine et une vie de sacrifice de son authenticité.
Excusez-moi, est-ce que c'est la même chose pour la possibilité qu'il a eue ou non d'être édité ?
C'est très... Je crois que... Oui, je crois que tout cela est difficile à dire. On ne peut faire que des hypothèses. On n'a aucun élément certain pour cela. Est-ce qu'il a cherché à se faire éditer ? Je n'ai aucune trace de cela. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a jamais eu aucune édition de son vivant et je n'ai jamais trouvé, alors que la correspondance et nos archives sont, je dirais, pratiquement complètes, il n'y a pas eu de tri d'archives. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de déménagement, tout est arrivé et donc personne n'a fait un tri d'archives. Quand nous avons ouvert nos archives autour des années 2000, 2001, 2002, 2003, et vous avez en constater des cartons que nous n'avions pas ouverts, on les a ouverts ensemble. Donc, il n'y avait pas de documents cherchant... Il y a une vague lettre simplement d'André Caplet vers les années 1922 qui dit qu'il doit parler à Durand éventuellement. Donc, c'est la seule trace dans laquelle il dit « je parlerai à Durand ». Et vraisemblablement, c'était donc pour faire une édition, puis il n'y a pas eu de suite. Donc, et puis par la suite, il n'a jamais essayé de se faire éditer. Dans la mesure où il n'a pas cherché à se faire jouer, je ne vois pas pourquoi il aurait cherché à se faire éditer.
Il y a pourtant cette fameuse... Alors, je ne sais pas le nom que ça a, où il... ces partitions sont en plusieurs exemplaires avec une forme de reprographie particulière. Je me rappelle plus que vous m'avez... Comment ça s'appelle ?
Oui, c'est ça. Ça, c'est un tirage d'architecte. Alors là, c'est un cas un peu particulier. C'est pour le second quatuor. Il y a le second quatuor et le quintet.
Oui, voilà.
Alors, le second quatuor à cordes était dédié à Marcel Armingo, qui était un industriel qui avait des possibilités de reprographie à l'époque. Donc ça, ce sont des œuvres qui ont été reprographiées en quelque sorte, de façon comme on le faisait à l'époque, sur des sortes de tirages d'architectes, par Marcel Armingo, sa société, son entreprise, lui-même étant concerné, puisque le quatuor lui était dédié. Et le quintet, qui a été également reprographié de cette même façon, c'est parce que ce quintet, il y a eu une audition privée chez Marcel Armingo, dans la propriété de Marcel Armingo. Donc on peut presque lier ces deux reprographies à, je dirais, une circonstance très précise liée au mécène, en quelque sorte, à l'industriel qui avait favorisé l'audition de ces deux œuvres.
Mais c'est vrai parce que, excusez-moi, parce que je pense qu'effectivement, il y a la question à partir du moment où on écrit, on compose, se pose la question de la diffusion et de l'exécution. En fait, je reste persuadée qu'on n'écrit pas pour que de la musique, pour que ça reste dans les cartons et juste des jolis signes sur une feuille. Voilà, donc,
ça reste un mystère pour nous quand même.
Ça reste un mystère. Alors, il y a une lettre d'un de ses amis, Pierre Maillère, qui était le chef d'attaque des seconds violons du Boston Symphony, et qui lui dit « Mon pauvre Durosoir, vous n'auriez pas dû aller vous installer au pied des Pyrénées, vous auriez dû vous rester dans les environs de Paris, à Pontoise, à Meaux, enfin ici, en disant « Dans ces circonstances-là, vous auriez peut-être pu avoir la possibilité de vous faire jouer, de vous faire éditer. » Et il lui dit « Ce ne sert à rien d'écrire de la musique et d'envoyer des partitions si vous ne vous déplacez pas et si vous n'allez pas vous-même rencontrer les musiciens, les chefs d'orchestre, etc. Tout, vous perdez votre temps et votre argent, en quelque sorte, en écrivant. Etc. Donc, et ça veut dire que d'une certaine façon, il devait être blasé. Il avait dû essayer, certainement, à une époque, d'envoyer certainement des partitions ou d'essayer de se faire jouer. Puis, perdu dans le fond des départements des Landes, il n'avait eu certainement très peu de réponses. Et donc, il avait épuisé son énergie. Je crois que c'est une hypothèse aussi, mais sans
oui,
aucune certitude.
Il a peut-être été un peu victime, disons, à long terme, de cette attitude tour d'ivoire, quant à soi. Le splendide isolement, il y a un moment où ça se retourne contre vous. Et puis après, il est devenu beaucoup trop pauvre avec la Deuxième Guerre. Et là, ça a été la fin de tous les hypothèses possibles d'être connu.
Le calendrier aussi, le calendrier de la survenue à partir de 1935-1936, les problèmes, je dirais, européens qui pointaient la Seconde Guerre mondiale, ont peut-être briser de façon définitive toute velléité de se faire connaître et de se faire, à un moment donné, vraisemblablement. Mais tout ça, c'est des hypothèses, on ne peut pas...
Parce qu'il a eu très peu de temps. Il aurait eu entre 1923 et 1936 pour se faire connaître, pour faire connaître sa musique. C'est très peu dans une vie, 13 ans. C'est très peu. Et coincé entre deux guerres, après, il y a eu la naissance de ses enfants, à un moment donné, il a eu juste de quoi les nourrir. C'est d'ailleurs pourquoi il a vendu beaucoup de choses qu'il possédait, parmi lesquelles ces deux grands violons italiens, le Guadagnini et surtout le Guarnerius. Il a quand même vendu des grands violons pour survivre. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'on pense à faire éditer sa musique. Si vous voulez, il a eu une période de vie heureuse et calme pour composer et tenter de se faire connaître, qui a été d'une brièveté étonnante, quoi, dans toute son existence.
Du coup, est-ce que vous savez si sa musique est connue aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est jouée régulièrement ?
Elle commence à être connue. Nous œuvrons pour ça. Nous nous donnons pour objectif, quand nous disparaîtrons de cette planète, qu'elle soit un peu plus connue qu'en 2000.
En fait, on peut dire que les premières éditions et les premières auditions datent de 2005. Nous sommes en 2014. Si on regarde le chemin parcouru en moins de 9 ans, on peut considérer que c'est assez étonnant dans ce laps de temps. Quand on regarde, disons, par comparaison à d'autres, le temps qu'il faut pour se faire connaître, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, il faut du temps. Et lorsqu'on regarde ce qui a été fait entre 2005, donc première édition et premier enregistrement, donc première audition également de l'œuvre, et la date d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, et je crois que c'est lié d'une part l'originalité, naturellement, aux efforts que l'on a pu déployer et à des circonstances, je dirais, très favorables du milieu, mais je dirais un peu à l'originalité et à la curiosité suscitée par cette œuvre. Donc cette curiosité, vous êtes un témoignage de cette curiosité, en quelque sorte. Donc cette curiosité a fait peut-être une... L'originalité donc entraîne la curiosité et donc d'une certaine façon une certaine accélération.
Alors je voudrais revenir sur les deux idées de curiosité et originalité. La curiosité n'est pas le fait de tout le monde. Vous avez aussi une génération d'artistes qui n'a aucune envie d'aller vers du nouveau. C'est, disons, c'est les gens autour de 50 ans et plus, ils n'ont pas envie de voir du nouveau répertoire. La curiosité est du côté des jeunes. Et l'originalité de cette musique qui la rend d'un accès peut-être un peu difficile, n'est pas non plus du goût de tout le monde. On aime bien avoir des terrains balisés et marcher dans les sentiers déjà un peu repérés. Donc, l'œuvre de Lucien Durosoir, dans la mesure où elle est récemment mise au jour et où elle est singulière, ce n'est pas de tout acquis de son côté. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que dès le début, la presse, et notamment internationale, a été très élogieuse, et notamment le critique de Gramophone qui a dit « Durosoir après l'Équateur, un compositeur avec lequel il faudra compter ». C'est une des plus belles phrases de critique que j'ai entendues sur son compte il y a quelque temps. Et la deuxième chose, c'est que nous apprenons, puisque nous sommes tenus au courant, qu'il passe souvent sur les radios étrangères, et notamment dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc il y a un rayonnement. Il y a une réception actuelle de sa musique qui n'est pas grandiose, qui n'est pas extraordinaire. Il n'est pas aussi connu que Mozart ou Beethoven, mais ils sont nombreux dans ce cas. Mais en tout cas, on a conscience que notre action a donné des bons résultats pour l'instant, surtout dans si peu de temps.
Oui, vous parlez de singularité. Je pense que c'est un terme qui peut effectivement bien définir sa musique, à la fois dans son expression et dans sa facture.
Oui, puisque tous les critiques avertis, les gens, les musicologues, les analystes, relèvent la singularité de sa musique. Mais il ne faut pas s'en étonner. C'est un homme qui fait cavalier seul. Il a été rebelle dès le départ. Il n'a pas voulu de l'institution parce qu'on vous a dit qu'il s'était fait renvoyer du conservatoire. Mais il s'est fait aussi mettre dehors de 2 ou 3 écoles et collèges parce qu'il était visiblement ingouvernable. Un enfant ingouvernable. Alors, on trouve ça très sympathique de loin. Quand on est le parent d'un enfant ingouvernable, c'est moins agréable. Mais ça dénote une personnalité intéressante, une personnalité qui vaut la peine d'être fréquentée. Et je pense que sa musique porte la marque de cette personnalité forte, un peu rebelle. Le fait de n'avoir pas voulu connaître les courants dominants de son époque, ça l'a amené à n'écrire que la musique qu'il avait dans sa tête, avec des références à Beethoven, des références à Bach, des références à Jean-Marie Leclerc, à un passé brillant et en même temps la musique qu'il avait lui-même dans sa tête, car on a tous une musique dans notre tête, on a tous notre création. Le tout, c'est d'arriver à la mettre sur le papier sans subir les influences de nos maîtres, de nos contemporains, etc. Et moi, c'est peut-être ce que je préfère en lui, c'est justement sa singularité.
Mais ce n'est pas une singularité non plus. Vous parliez de Tour d'Ivoire tout à l'heure. En fait, il n'était pas tant que ça dans la Tour d'Ivoire parce qu'encore sur le front, avec Caplay, il crée la sonate de Debussy. Donc, il est tout à fait au courant de la création contemporaine. Donc, c'est réellement un langage qu'il s'est forgé.
Et même plus que Debussy, puisqu'il semble qu'il ait été un des tout premiers Français à connaître et à apprécier Schoenberg.
Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que sa Tour d'Ivoire, je pense que sa Tour d'Ivoire, elle est dans sa seconde période.
Oui.
Sa première période, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, s'il n'est pas du tout dans sa Tour d'Ivoire, sa bibliothèque est très riche de musique de ses contemporains. Et puis, il a vécu, c'est peut-être le mot est un peu grand, mais disons, il a connu de longs séjours à Vienne, à Berlin, etc., c'est-à-dire dans des époques de pleine de pleine effervescence musicale. Georges disait il y a un instant, il était à Vienne au moment des scandales autour de Schoenberg.
C'est ça.
Donc, et de toute cette période-là. Donc, 1911, c'est quelqu'un 1913. Qui allait, quand il allait dans ces pays, il n'allait pas simplement faire du tourisme, mais il allait au concert. Et j'ai les programmes de concerts auxquels il assistait. Et dans les lettres de la Grande Guerre, il dit souvent à sa mère, tu te souviens quand nous avons entendu tel quatuor joué par le quatuor tchèque, etc. Il le jouait de telle façon, il fallait leur talent pour le faire passer. Quand on le regarde, c'est moins intéressant, etc. Donc, il y a toute une culture musicale qu'il avait dans ces pays de cette époque, de ses contemporains. Donc,
Moi, il y aura encore deux choses que je souhaiterais dire. C'est sur son destin de compositeur, qui semble, en fait, par rapport à ce que l'on a dit, pourrait sembler être une résultante malheureuse du fait qu'il a abandonné le violon. Ce que j'ai pu voir chez vous, c'est que ses études d'écriture, en fait, ont été bien plus importantes qu'on ne le pensait.
Avant la
guerre. Qu'il avait vraiment, alors à titre personnel, effectivement, loin des conservatoires, mais est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est pour autant qu'on ne se fabrique pas un métier de compositeur ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut le faire, tout à fait. Et donc, la totalité des exercices que j'ai pu retrouver, de l'orchestration, des chandonnées, etc., il a réellement acquis un métier avant la guerre. Et ça, le fait que pendant la guerre, à partir de 1917, quand il a la possibilité, il est un petit peu plus stabilisé, on va dire, sur...
Il s'occupe d'un colombier avec Capri.
Voilà, il est un petit peu plus stable.
Un pigeonnier.
Un peu plus stable. Voyageurs. Il se fait envoyer des exercices de contrepoint. Il reprend tout ça avant de reprendre la fugue. En fait, ça n'est simplement qu'une reprise d'une idée qu'il avait avant. Donc, je pense que violoniste ou pas violoniste, il aurait de toute façon composé. Donc ça, c'est peut-être une première chose que je souhaiterais dire. Seconde, c'est concernant justement son esthétique, qui est là aussi singulière, parce que je pense qu'elle... l'idée me vient là. Elle fait une sorte de pont entre l'esthétique allemande et l'esthétique française, puisqu'en fait, dans sa facture, là, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure sur sa manière de construire sa partition, qui est très empruntée à Jean-Sébastien Bach, finalement. Donc, on va dire une filiation allemande, je trouve. Donc, on a effectivement dans la facture quelque chose qui ressortit à l'esthétique allemande. Mais en même temps, il y a beaucoup de passages, notamment ces passages plus rêveurs. Georgie, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux axes énergétiques, si on peut dire, dans sa musique, le passionné. Et puis un petit peu plus rêveur, je dirais que peut-être dans ce premier axe, on va peut-être retrouver un peu plus de l'Allemagne, mais dans l'axe un petit peu plus rêveur, on retrouve, moi je trouve beaucoup de l'esthétique française avec une grande finesse des couleurs modales, l'art de l'ornementation par exemple, oui. Une grande recherche de couleurs et de légèreté. Alors je ne sais pas si vous
de
définirez...
poétisation, oui, voilà, je suis entièrement de votre avis. Voilà. C'est très bien vu. Très bien vu.
Voilà. Alors, sur le plan, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, au niveau des dates et du travail du compositeur, en fait, je crois qu'il y a trois périodes. Il y a dans sa jeunesse, lorsqu'il avait 17 ou 18 ou 19 ans, il a fait quand même un certain nombre d'études fondamentales et de base. Et il a travaillé en particulier avec son ami Tournemire. Donc, je dirais en parallèle avec des études de violon. Il avait abandonné cela, donc, disons, autour des années 1897 ou 18. Mais dans les années précédentes, 1897 ou 98, il avait quand même fait des études un petit peu fondamentales. Il semble... quand même, ça c'est une donnée peut-être récente, parce que je viens de vider quelques autres cartons et de regarder les programmes de concerts de 1912-1913, et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a l'impression qu'autour de 1912 et 1913, son activité de violoniste va diminuer. Elle diminue, et Jean-Gilles a trouvé une lettre dans laquelle il écrit à son impresario à Vienne: annulez-moi ma série de concerts, car on mobilise dans les Balkans et je ne veux pas aller jouer devant des banquettes vides. Donc, ça veut dire... Et puis l'ambassadeur de France à Berlin lui dit, l'année prochaine, je ne sais pas si nous nous reverrons ici. Donc, ça veut dire que dans les années précédant 1914, il sent que sa carrière de violoniste en Europe centrale et dans les empires du centre risque d'être un petit peu perturbée par des événements politiques. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il reprend des exercices d'écriture que dont vous avez trouvé en 1912 et 1913 et qui vont être interrompus à ce moment-là par la guerre. Et ce n'est qu'en 1917 et 1918 que lorsqu'ils vont être un peu plus tranquilles dans la dernière période de la guerre, enfin, ils vont avoir une période de calme de quelques mois, pendant 5 ou 6 mois. Le front s'est stabilisé, etc. C'est lié à l'histoire de la guerre. Ils vont être en Champagne avec Caplet. Ils vont avoir pendant 5-6 mois une période de tranquillité et ils vont profiter de cela pour retravailler fugue, contrepoint, etc. Le pigeonnier de Suippes, comme dit du Rosoir à sa mère, est devenu un petit conservatoire parce qu'autour de Caplet, il y a plusieurs musiciens du secteur qui viennent se regrouper pour faire un petit peu d'exercice. Voilà. Et donc, c'est la troisième période. Donc, et à partir de, après ces démobilisations, effectivement, il se mettra définitivement à la composition, abandonnant sa carrière de violoniste.
Merci à Georgie et Luc du Rosoir pour ce témoignage aussi intéressant et riche que passionné. Merci aussi à Isabelle Brotodeau pour ces éclairages que vous nous avez apportés sur la musique de Lucien du Rosoir. Et merci aux étudiants du département de musique et musicologie de l'Université Lumière Lyon 2.